dans un temps où l'individualisme règne, pouvoir déclarer « Tu es mon Dieu et mon roi », voici qui est tout à fait nouveau, tout en gardant cette merveilleuse personnalité que Dieu nous a donnée avec tous ses aspects. Eh bien, nous nous réjouissons. Nous avons un Dieu, nous avons un roi. Est-ce qu'avec David, nous ne pouvons pas dire dans le psaume 23 et le verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Béni soit le Seigneur. Le numéro 6, Alléluia, rendons gloire à Dieu, car il règne. Il y a une question qui se pose en chantant ce si beau cœur. Est-ce qu'il y a une partie dans votre vie sur laquelle vous avez l'impression que Dieu ne règne pas? Alors ce soir, vous allez pouvoir dire au Seigneur, en chantant ce cantique, « Seigneur, sur ce point-là, tu règnes. » Vous avez peut-être un mari qui n'est pas encore converti. Vous avez peut-être une épouse qui ne l'est pas encore. Des enfants qui vous causent bien des problèmes. Manifestons le règne de Dieu au sein de nos familles. Nous voulons chanter encore deux fois ce cœur.
Alléluia, rendons gloire à Dieu, car il règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu, car il règne. Soyons joyeux.
Alléluia. Alléluia. De reconnaître que celui-ci, notre Dieu, comme unique roi dans notre monde. Alléluia. Oh, notre Dieu, nous te glorifions pour ton règne. Et nous savons, Seigneur, que c'est un règne total, un règne parfait, un règne qui est incontestable parce que tu es au-dessus de toutes choses. Et nous savons que ton trône est un trône inébranlable et qu'à tes côtés, il y a ton Fils bien-aimé, Jésus notre Sauveur, qui lui aussi a remporté la victoire. La mort n'a eu aucun pouvoir sur lui et il est assis à ta droite et il règne. Et nous nous réjouissons de ce qu'il nous a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia! Car tout ton règne, Seigneur, est un règne universel, un règne cosmique. Et nous voulons ce soir le proclamer de tout notre cœur. Alléluia, Seigneur! Et par conséquent, tu règnes sur cette soirée. Tu règnes sur tous les maux. Tu règnes sur les difficultés. Tu règnes sur les problèmes, tu règnes sur la dépression, tu règnes, Seigneur, sur tout ce qui nous détacherait de toi, d'une manière ou d'une autre. Alléluia! Notre Dieu règne! Alléluia! Gloire à Dieu!
Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta merveilleuse présence au milieu de nous. Tu nous as fait déjà du bien, Seigneur. Tu as déjà touché nos cœurs et nous croyons que tu veux encore continuer car tu as préparé quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs afin que tu sois libre d'agir comme tu le veux. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, me voici devant toi. Utilise-moi et utilise-nous comme tu le voudras, afin que ton nom seul soit glorifié et que ton Église soit édifiée. Seigneur, tout est entre tes bonnes mains. Nous comptons sur toi et sur le ministère du Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu diriges tout, que tout reçoive ton approbation et réjouisse ton cœur. Bénis la prédication de ta parole. Bénis, Seigneur, l'appel qui sera fait. Bénis la prière pour les malades. Seigneur, que dans ta grande compassion, tu te manifestes au milieu de nous. Oh, en étendant ta main pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus, qu'il y ait une grande joie au milieu de nous, comme à Samarie lorsque l'évangéliste Philippe s'y trouvait, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions rentrer chez nous, heureux et contents de t'avoir vu, de t'avoir loué, de t'avoir béni. Merci, Seigneur. Tout cela est par grâce, nous ne le méritons pas. C'est pourquoi nous nous courbons devant toi et t'adorons de tous nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a un merveilleux esprit au milieu de nous, n'est-ce pas vrai? Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa compassion divine, il va se manifester au milieu de nous. Amen. Quand on dit que Dieu est compatissant, cela veut dire que vous n'avez pas besoin de forcer Dieu de vous bénir. C'est Dieu qui désire ardemment vous bénir. Beaucoup plus que vous, vous désirez l'être. Regardez-moi ça. Mais c'est sûr, mais le jour où moi j'ai compris cela, j'ai cessé mes gémissements devant le Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas agir? On a l'impression qu'on parle à, je ne sais pas, à quelqu'un qui est sourd d'oreille, ou quelqu'un qui est dur. On se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que tu vas agir? Nos prières bien souvent révèlent que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, qui veut nous bénir beaucoup plus que nous désirons être bénis. Amen. C'est pourquoi la meilleure façon de s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher dans la louange. Et si vous l'avez remarqué, bien souvent, lorsque nous prions pour les gens, pour la guérison, donc tout spécialement, nous disons qu'une chose, lève les bras et loue le Seigneur. Amen. Ne mendie pas le Seigneur, mais loue le Seigneur, car il est bon, il est miséricordieux, et comptons sur lui encore ce soir. Aucun regard sur l'homme, moi je ne peux absolument rien. Ni personne ne peut faire quoi que ce soit pour vous. Si vous êtes ici pour la première fois, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Et non seulement Dieu vous aime, mais nous vous aimons aussi. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons prendre tout le temps ce soir, comme nous l'avons dit hier soir, de prier pour tous les malades qui le désirent. Nous avons l'habitude de prier. S'il faut continuer jusqu'à minuit, nous prierons jusqu'à minuit. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Lyon. Il y avait une réunion de baptême, nous avons commencé à 4 heures, et les derniers malades pour lesquels nous prions, nous avons regardé la montre avec ma femme, c'était 9 heures du soir, de 4 heures à 9 heures. Mais alors, quelle grâce, quelle bénédiction, et l'onction n'a pas diminué, bien sûr, tous les gens étaient partis, il en restait plus que 2 ou 3 à la fin, les malades, mais l'onction n'a pas diminué, au contraire. Il semblait que l'onction se précisait là et Dieu a manifestement posé sa bonne main sur beaucoup, beaucoup de gens. Ainsi attendons-nous à lui, chers amis. Venons en nous confiant dans son amour. Mais j'ai aussi annoncé autre chose hier soir et je voudrais dire que le message d'hier soir était pour qui? Pour les dames, nos chères épouses. Et le message de ce soir est pour qui? Ah, pour les hommes, pour les maris. Et Le Seigneur aime la famille, car c'est lui qui l'a créée. Amen. La famille vient de Dieu. Comme Dieu est amour, c'est lui qui a créé cette famille avec amour. Et il veut encore, je le crois de tout mon cœur, restaurer des familles au milieu de nous. C'est pourquoi nous allons lire maintenant un passage qui est bien connu. Et ensuite, je vous donnerai quelques pensées très importantes. On pourrait dire beaucoup de choses, mais quelques pensées précises. Lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, si vous voulez bien maintenant. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soulignez bien ce verset, je vais y revenir dans quelques instants. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est le verset que les maris aiment beaucoup. Ah, ça, il l'aime, celui-là. Oh, il l'aime. Ah là 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 là. Combien ils bénissent le Seigneur d'avoir mis ce verset dans la Bible. Ah, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Ah, celui-là aussi, il aime bien celui-là aussi. Ils le comprennent un peu de travers, mais enfin, ils l'aiment quand même. Ils ont vu chef, tiens, chef, ça, quelqu'un qui commande, c'est intéressant. Mais ils l'ont mal compris. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous allons nous arrêter là et que le Seigneur bénisse sa parole. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un jour, un jeune marié est venu voir un pasteur en disant, je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, il me semble que j'aime trop ma femme. Pasteur, c'est la première fois qu'il entendait ça. Je ne sais pas, il me semble que je l'aime trop. Ah bon, tu l'aimes trop? Est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle? Est-ce que tu es prêt à livrer ta vie pour ta femme? C'est un peu trop fort. Ah ben non, non, non. Ah ben tu ne l'aimes pas encore assez. Tu ne l'aimes pas encore assez. Beaucoup d'entre nous, et je parle maintenant en tant que mari, nous pensons bien aimer nos femmes, mais pas toujours comme il le faudrait. On le fait bien sûr de tout notre cœur, mais certainement il y a des progrès à faire. Certainement, et il est très important de réaliser que si nous voulons que les foyers changent, le premier changement doit commencer par le mari. Cette vérité est très, très importante, car la parole de Dieu dit bien, le mari est le chef de la femme. Un chef, selon le texte ici original, c'est quelqu'un, c'est pas un patron ou un commandant, mais c'est un responsable. Autrement dit, le mari est le premier responsable dans le foyer. Cela ne veut pas dire que son épouse n'a pas de responsabilité, non. Mais que le mari est le premier responsable. Quand quelque chose ne va pas dans le foyer, le mari est le premier responsable. Même si, apparemment, les choses ne sont pas de sa faute, il est le responsable. C'est pourquoi un jour, chacun d'entre nous ici, je parle au mari. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu, je crois qu'une des premières questions qu'il va nous poser est celle-ci. As-tu été fidèle dans ton rôle de mari? Il ne va pas vous demander « Combien as-tu sauvé d'âmes ?»
Oh, on parle beaucoup de cela, n'est-ce pas? On insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est... il posera peut-être cette question, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant cela, il y aura d'autres questions qui risquent de nous rendre un peu mal à l'aise. Mais Seigneur, tu sais, j'étais le meilleur chrétien de l'Église. Mais le Seigneur dit, mais ton rôle de papa, est-ce que tu l'as bien assumé? Est-ce que tu t'es bien occupé de ta femme? Est-ce que tu t'es bien occupé de tes enfants? Mais Seigneur, tu sais, une fois je suis parti jusqu'en mission, et on a fait une campagne extraordinaire, c'était merveilleux. Mais écoute, mon ami, je ne te parle pas de ça pour le moment. Est-ce que tu as été fidèle à ta première responsabilité, qui est de prendre soin de ta femme et de tes enfants? Ça, c'est ta première... Mais Seigneur, tu sais, hein, j'allais aussi dans les rues, je distribuais des traités. Et un jour même, quelqu'un s'est mis à genoux dans la rue, il s'est donné au Seigneur. Il s'est donné à toi. Mais tu ne réponds pas à ma question. As-tu été fidèle à ta première responsabilité? Et beaucoup d'entre nous, et cela je le prêche aussi à moi-même, mes amis, vous savez, nul n'est exclu. Je ne fais la leçon à personne ici, et le Seigneur sait très bien que lorsque je prêche là-dessus, il me prendra au mot. Et je sais ce qu'il veut dire. Mais le point important est celui-ci, mes chers amis, cette parole est très sérieuse. Un jour, nous devons rendre des comptes à Dieu en tant que mari. En tant qu'époux, vous aurez des comptes à rendre. Avant qu'il ne soit trop tard, je crois que l'Esprit de Dieu est encore là pour nous aider à réparer ce qu'il faut réparer, à changer ce qu'il faut changer. Il y a un espoir. Si peut-être au travers du message, tu te sens repris, et c'est normal, c'est bien que tu te sens repris. C'est tragique si on ne se laisse plus reprendre, n'est-ce pas vrai? Combien de maris font toujours un peu les gens, tout est formidable, comment ça va? Oh, tout va très bien. Vous savez, j'ai beaucoup appris au fil des années de ne plus me fier à l'apparence. Est-ce que vous vous fiez encore à l'apparence? Beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi déçus. Comment ça va à la maison? Très, très bien. Et si un jour vous allez frapper à la maison, un jour vous n'êtes pas invité, et que vous entrez directement à la maison comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Il y avait justement un match de boxe avec ma femme. Le gamin est sous le lit là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Les apparences trompent, et il y a beaucoup de maris qui sont champions pour porter le masque d'un bon mari. Vous savez, il y a des maris qui sont comme des anges dans l'église. Oh, ils brillent, ils rayonnent. Mais à la maison, c'est un autre rayonnement. C'est un autre rayonnement. On a l'impression que lorsqu'ils entrent à la maison, c'est plus les mêmes personnes. Mais vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est malheureusement possible. Et en cela, nous avons tous besoin que le Seigneur nous parle. Et si vous voulez que quelque chose change, nous allons prier certainement après pour ceux qui s'approcheront, pour des problèmes de famille. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vous voulez que quelque chose change, il faudra prendre des décisions. Selon ce que Dieu vous a parlé, car simplement une prière ne changera rien du tout. Beaucoup pensent qu'une simple prière, d'un seul coup, ça va changer leur foyer. Non, la prière vient concrétiser la décision que vous venez prendre devant Dieu, en disant, maintenant Seigneur, je me consacre à toi comme tout à nouveau, et je veux que quelque chose change. Et à partir de ce soir, quelque chose changera dans mon foyer, parce que moi, je change. Si vous partez dans cet esprit-là, mes amis, Dieu sera avec vous. Le miracle est possible. Peu importe votre situation, peu importe les grandes difficultés, peu importe si tout va très mal, Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Mais il n'attend qu'une chose, notre bonne disposition, que l'on enlève toute hypocrisie, que l'on enlève tout faux semblant, toute apparence. Oh, mais oui, tout va très bien avec moi. Non, il nous faut être honnête devant Dieu et ainsi... Il agira. que son nom soit béni. J'ai noté 5 pensées qui sont un peu comme 5 qualités d'un bon mari pour avoir un bon foyer. 5 qualités, nous n'allons pas aller trop dans les détails, mais je voudrais quand même les donner, car ces 5 pensées sont très importantes. La première pensée, celle-ci, ou la première qualité, le mari n'est pas un dictateur, mais un serviteur. Voilà une première pensée que le mari doit se mettre dans la tête et dans le cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dit le mari est le chef de la femme. Mais certains maris ont très mal compris ce verset. Et la preuve, c'est qu'à la maison, ils parlent comme des commandants. On a l'impression que c'est que des ordres à la maison. Et alors, ils pensent que c'est comme cela que la femme va obéir. Le mot « chef » ici, donc, ne veut pas dire cela. Et la Bible ne fait pas d'un mari un dictateur, mais un serviteur. Si vous êtes le chef de votre épouse, cela veut dire que vous êtes le serviteur de votre épouse.
C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça?
Mais ça va tout changer, alors. De dictateur, je vais passer serviteur? Ah, vous en demandez trop?
Eh oui.
Si vous voulez que quelque chose change, il faut abandonner certains rôles que Dieu ne vous a jamais donnés et prendre le rôle que Dieu vous a donné. Et c'est alors que vous aurez de l'autorité, car l'autorité du mari provient lorsqu'il fait ce que Dieu lui demande. Comme le mari est le chef de la femme, il est dit que Jésus est le chef de l'Église. Il y a là un parallèle. Et comment Jésus est le chef de l'Église? Est-ce qu'il est le chef sur vous et sur moi en nous tyrannisant, en nous commandant, en nous donnant des ordres constamment? Est-ce que c'est ainsi qu'il règne sur nous, le Seigneur? Certainement pas. Alors comment est-ce que Jésus est le chef de l'Église? Il y a 2 pensées importantes. Jésus est le chef de l'Église, ou si vous voulez, il a autorité sur l'Église à cause de 2 pensées importantes. Premièrement, parce qu'il a fait la volonté de son Père. Amen. Jésus lui-même a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et continuellement, dans le ministère de Jésus, il y avait cette pensée. Je ne suis pas venu ici-bas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Et c'est ainsi que lorsque Jésus faisait constamment la volonté de son Père, ceux qui le suivaient, suivaient aussi le Père. Lui obéissait au Père, et ceux qui lui obéissaient, obéissaient aussi au Père. C'est pourquoi un mari qui ne suit pas le modèle de Jésus, eh bien, il aura de grandes difficultés. Mais je vais vous donner la deuxième pensée maintenant. Et comment Jésus aussi a-t-il autorité sur l'Église? Premièrement, en obéissant à son Père. Et deuxièmement, en donnant sa vie pour nous. Amen. Voilà pourquoi Jésus a de l'autorité sur nous. Voilà pourquoi son amour engendre un amour réel, profond pour lui, parce qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Ce n'était pas un amour en parole, mais c'était un amour en action. Il a donné sa vie pour l'Église. Et lorsque nous comprenons cet amour extraordinaire de Jésus pour nous, alors cet amour engendre un véritable amour en nous, un amour qui se sacrifie pour le Seigneur et pour les autres. N'est-ce pas vrai? Voilà pour comment Jésus a obtenu l'autorité sur l'Église, en obéissant à son Père et en se sacrifiant et en donnant sa vie pour nous. Le mari doit suivre le même exemple. Cher mari, si tu veux avoir une autorité sur ta femme, c'est en obéissant au Seigneur, en faisant la volonté de Dieu dans ta vie, que tu y arriveras. Et le problème avec beaucoup de maris, Le pourquoi ils n'ont pas d'autorité sur leurs femmes provient de quoi ? Provient du fait qu'ils font leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Cher Marie, si tu crois imposer ta propre volonté à ta femme, bon, certaines baissent la tête et l'acceptent, mais d'autres réagissent. Et c'est la bagarre continuellement. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes, même si vous donnez des ordres, même si vous faites tant de choses, car Dieu n'a pas prévu les choses comme cela. Tant que le mari fait sa propre volonté et veut imposer sa volonté à son épouse, ça ne marchera jamais. Pour que le mari ait de l'autorité sur sa femme et pour que la femme suive le mari, il faut que le mari cherche à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Mon ami, c'est là une vérité capitale. Veux-tu que ta femme te suive ? Il faut que toi, tu suives le Seigneur. Mais tu ne peux pas exiger de ta femme qu'elle t'obéisse quand toi, tu n'obéis pas au Seigneur. C'est une vérité toute simple, mais c'est une vérité capitale. C'est pourquoi tant de maris rebelles, égoïstes, ne pensant qu'à eux, veulent que sa femme leur obéisse, tout en faisant eux ce qu'ils veulent. Allez, tu dois obéir. La femme est comme un objet. Et c'est pourquoi il y a tant de souffrances, tant de séparations, tant de divorces. Le premier responsable, c'est le mari. C'est pourquoi le mari a une grande responsabilité. Plus le mari cherche à faire sa volonté, il n'aura pas d'autorité dans son foyer. Mais quand le mari cherche à plaire à Dieu, à obéir au Seigneur, à faire sa volonté, à être un modèle spirituel dans son foyer, alors la femme n'aura qu'un désir, car la femme a été créée pour cela. La femme désire être conduite par son mari. Cela est en elle. Une femme qui domine son mari, c'est anormal, c'est contre nature. Même si une femme domine son mari, elle ne sera jamais heureuse. Car naturellement, elle n'a pas été créée pour cela. La femme désire s'appuyer sur son mari. Mais il faut que ce mari s'appuie sur le Seigneur. C'est pourquoi votre relation avec Dieu, chère Marie, votre relation avec Dieu est importante. S'il n'y a pas de relation avec votre Seigneur, votre Dieu, une véritable relation, alors il n'y aura pas non plus de relation réelle, profonde avec votre épouse. Vous dites, mais pourquoi ça ne va pas avec ma femme ? Peut-être parce que ça ne va pas avec Dieu. Le problème des problèmes est bien souvent, nous cherchons beaucoup de raisons, n'est-ce pas ? Oh, c'est ma femme qui a tel caractère, oh, c'est les enfants, et c'est mon travail, et c'est le voisin, et c'est ceci, et c'est cela. Non, mes amis, le principal problème est un problème spirituel. C'est le mari, bien souvent, qui est rebelle. Que de mari rebelle, que de mari désobéissant. Il faut que la femme obéisse, mais surtout pas obéir à Dieu et faire sa volonté. Mais la femme, voyant que son mari cherche à obéir à Dieu, elle fera tout pour plaire à son mari. Amen. Et l'épouse, d'une manière générale, n'est pas exigeante à un tel point qu'elle attend un mari parfait. Non, en général, une épouse, quand elle voit que son mari cherche à faire le maximum, cherche à être le mari que Dieu veut qu'il soit, l'épouse est là pour l'aider et l'encourager. Mais quand l'épouse voit cette rébellion, cette opposition à faire la volonté de Dieu dans sa vie, alors cela la décourage. Elle n'a pas de modèle, elle n'a pas d'exemple. Et c'est pourquoi il y a tant de séparation entre les époux, parce qu'il y a une séparation entre l'époux et Dieu. Mon ami, si tu veux que quelque chose change, tu sens une séparation entre toi et ta femme. Tu sens que quelque chose ne va pas, même si tu n'es pas divorcé. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va, et tu te demandes pourquoi, et tu accuses ta femme, et tu as tant de pensées négatives. La raison n'est-elle pas parce que toi, avec ton Dieu, ce n'est pas comme il le faudrait? Est-ce que tu as entièrement donné ta vie au Seigneur? En tant que mari, est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Est-ce que tu peux dire à ta femme et à tes enfants, suivez-moi dans les ailes? Soyez mon exemple, est-ce que tu peux le dire? Si tu disais cela, beaucoup de maris, si ils disaient cela à leurs femmes ou à leurs enfants, les maris, les enfants et les épouses iraient dans le monde. Voilà la première pensée. Donc, le mari n'est pas un dictateur, mais un serviteur. Dans la mesure où il sert Dieu, il pourra servir son épouse. Amen. Mais autrement, c'est impossible. Voyons maintenant cette deuxième pensée, deuxième qualité. Le mari n'est pas supérieur à sa femme. Beaucoup ont pensé, et dans le monde, on pense que, puisque le mari, c'est le chef, enfin, du foyer, on a l'impression, et on donne l'impression, et même des chrétiens donnent l'impression, que, puisque c'est le chef, alors, il est supérieur à sa femme. Autrement dit, lui est supérieur et sa femme est inférieure. Ah, beaucoup de maris n'osent pas le dire, ça, mais dans le fond de leur cœur, c'est comme ça. Toi, mets-toi ici, juste un petit peu, un peu plus bas, tu te mets. Moi, je suis là sur le trône, tu vois, mais toi, une marche plus bas. C'est normal. Tu es un peu plus bas. Je t'aime bien, tu sais, mais toi, je t'aime de haut. Et toi, tu m'aimes d'en bas. Mais on s'aime, tu vois. Mais il y a ce sentiment de supériorité qu'on veut bien faire remarquer. Si nous pensons cela et si le mari pense cela, c'est la plus grande erreur qu'il puisse faire. Selon la parole de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Mais ce sont leurs rôles, leurs responsabilités qui sont différents. Amen. Là, il a une pensée très importante. Devant Dieu, homme et femme sont égaux. C'est dans les autres religions. C'est dans la société, enfin les autres religions, d'une manière générale, que l'on fait ces distinctions. Il n'y a que le message chrétien qui révèle cette vérité extraordinaire de l'égalité de l'homme et de la femme. Mais en disant égalité, il ne faut pas penser que les deux ont le même rôle et un rôle qu'on peut interchanger. Non, ils sont égaux, mais ils ont des rôles différents. Et qui ne peuvent pas être interchangés. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est la catastrophe. Et ces deux rôles doivent se compléter. Autrement dit, le mari a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. C'est ainsi que Dieu a fait les choses pour qu'il y ait une complémentarité. Et que ce que l'un n'a pas, l'autre le possède. Et le mari, en tant que chef, que fait un chef ? Dans une entreprise, par exemple. Un chef, c'est quelqu'un aussi qui délègue certains pouvoirs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, un véritable chef. Quelqu'un qui a des responsabilités. Mais le mari doit faire la même chose. C'est pas quelqu'un qui dit, moi ici, c'est moi qui commande ici. Toi, viens ici. Tais-toi. T'as rien à dire. Oui, mais écoute, tu sais, tais-toi. Mais il y a des femmes qui peuvent absolument rien dire. Rien. Et encore, ces hommes pensent que la femme doit être soumise. Autrement dit, pour eux, être soumise, ça veut dire tais-toi. Et on comprend tout de travers. Quand la Bible dit que la femme doit être soumise, c'est simplement une question d'ordre. Dans un foyer, il faut un responsable, vous êtes d'accord avec moi? Dans une usine, s'il y a deux têtes qui commandent, combien de temps va durer cette usine? Dites-moi un petit peu. Ça va durer longtemps? Ça ne durera pas longtemps. L'un dit qu'il faut aujourd'hui faire tel travail, et l'autre dit exactement le contraire. Ces deux têtes-là, eh bien, au bout de quelque temps, mettront la maison en faillite. Dans une usine, dans un foyer, s'il y a deux têtes, eh bien, ce sera l'échec, la division. Donc, c'est donc une question d'ordre, et non pas de supériorité. Mais le mari qui est le premier responsable, et celui qui va déléguer certains pouvoirs. Par exemple, un mari ne prendra pas toutes les décisions. C'est lui qui prend la décision finale quand vraiment il y a un litige, bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui prend toutes les décisions. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, de la couture et tout ça, le mari qui ne sait rien du tout, et qui dit « Non, je ne suis pas d'accord !» Vous croyez que c'est intelligent, ça? Ah, ben la Bible dit que tu dois mettre soumise, il n'y a pas d'histoire. Maintenant, bon, qu'est-ce que tu voulais acheter, là? Quelque chose pour la poudre à lessive, tout ça? Non, 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 pas cette poudre-là! Je ne suis pas d'accord! Ah, tu veux acheter cette robe-là avec... Non, non, non! Non! Il y a des domaines où la femme est plus qualifiée que son mari, vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y a certains domaines, c'est logique. Alors, le mari doit déléguer certaines responsabilités, comme ça. L'épouse doit se sentir libre dans certains domaines, sinon c'est invivable. Mais il y a des épouses qui ne peuvent absolument rien faire. Puis malheureusement, il y en a qui font tout aussi de l'autre côté. Parce que le mari a abdiqué, ou alors il serre la vis, et puis l'autre ne peut plus bouger. Ou alors c'est tout à fait l'inverse. C'est la femme. Un jour où il était un peu fatigué, c'est à moi maintenant. Je te coince maintenant. Maintenant c'est toi qui es coincé. Et tu dois faire ce que je te demande. Alors vous voyez, c'est la bagarre constante. Non, le mari est un vrai chef, un vrai responsable. C'est quelqu'un qui sait déléguer des responsabilités. La chérie dans tel domaine, par exemple, son épouse peut être plus qualifiée dans le domaine, je ne sais pas, certains domaines, le secrétariat, et puis dans les langues et tout cela. Chérie, mais dans ce domaine-là, je vois que tu as des qualifications. Bon, allez, tu fais ce travail, fais ceci, fais cela. Mais c'est formidable. Au lieu d'être jaloux, certains maris sont jaloux. Comment? Toi, tu sais l'anglais, puis moi, je ne sais pas l'anglais. Tu parles l'allemand, je ne sais pas l'allemand. Tu fais pas de fautes, moi, je fais plein de fautes. Pas possible. Ah ben, je ferai quand même les lettres. Plein de fautes. Oui, elles risquent de revenir aussi, les lettres. Et tu risques d'avoir des ennuis. Utilise les capacités de ta femme. Amen. Utilise ses capacités. C'est tout simple ce que je vous dis, mais c'est ainsi. C'est cela un chef. Un chef, c'est quelqu'un qui délègue des responsabilités. Un chef, c'est quelqu'un qui sait découvrir les qualités de ses ouvriers, n'est-ce pas vrai? Les qualités, les dons que l'un et l'autre a, ça c'est un vrai chef. Et l'époux doit faire cela, doit discerner dans son épouse les qualités qu'elle a et ensuite les exploiter pour le bien commun. Amen. Allons un peu plus loin. Troisième qualité, le mari doit apprendre à dialoguer avec son époux. Avec son épouse, pardon. Le mari doit apprendre à dialoguer avec son épouse. Vous savez, la plainte, le murmure constant des épouses est bien souvent celui-ci. Mon mari ne me parle jamais. Mon mari ne dialogue jamais avec moi. On n'a pas de dialogue avec mon mari. Il est là, lui, il a le ministère de la bouche fermée. Ah, il est fidèle à son ministère. Ah, il ne parle pas. Pardon. Mon mari ne parle pas. Avant de nous marier, je n'arrivais pas à le faire taire. Et puis après le mariage, j'arrive pas à le faire parler. Pas de dialogue. Pas de dialogue, rien. Et c'est un problème grave dans beaucoup de foyers. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans beaucoup de foyers? Parce qu'il n'y a pas le dialogue. On ne parle pas. On n'écoute pas l'autre. Voilà pourquoi certaines épouses vont chez le psychologue ou chez le psychiatre. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Uniquement pour parler. Et l'autre, il est payé uniquement pour écouter. Mais savez-vous qu'il y a peu de gens qui savent écouter? Savez-vous? C'est un miracle. Savez-vous qu'il y a peu de gens qui écoutent vraiment? Vous savez, écouter, c'est pas entendre les paroles de l'autre. Ah, il y en a beaucoup qui entendent ce que l'épouse dit, mais ils n'écoutent pas les paroles. Ils entendent bien, pendant qu'ils entendent ou ils écoutent, eh bien, ils sont en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire? Elles sont là, ouais, tu peux bien parler, attends, je vais voir. Ouais, d'accord. Bon, ben, moi, je vois comment je vais te coincer, moi, tu vois. Voilà comment certains maris écoutent leur femme. Mais écouter, ce n'est pas cela. Écoutez, c'est... Savez-vous que c'est un... C'est honorer quelqu'un quand on écoute quelqu'un. C'est vraiment l'honorer. C'est un témoignage d'amour. C'est pourquoi l'époux doit être là, disponible, pour écouter, car s'il n'y a pas de dialogue, il y a des incompréhensions, n'est-ce pas vrai? Et savez-vous que dans beaucoup de foyers, les problèmes proviennent d'incompréhensions, de choses qui, apparemment, sont anodines. C'est sur des petites choses qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas vrai? Et ces petites choses n'étant pas résolues, ces préjugés, ces incompréhensions, qui font que, puisqu'on ne parle pas, on ne s'écoute pas, alors, tôt ou tard, on finit par le divorce et par des choses terribles. Le mari doit apprendre à dialoguer. La Bible dit que l'homme soit prompt à écouter et lent à parler. Nous avons deux oreilles et une bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Si vous faites cela, eh bien, je vous assure que quelque chose va changer en vous et dans vos rapports avec votre épouse. Cher mari, écoutez davantage. Ne dites pas quand votre femme... Tais-toi! Non, cela est très, très important. Car si vous ne l'écoutez pas, elle risque d'aller vers quelqu'un d'autre qui l'écoutera, qui fera semblant d'écouter, et qui tombera, elle tombera dans le piège. Amen? Elle tombera dans le piège, parce que la femme est très sentimentale. Puisque mon mari ne m'écoute pas, puis tout à coup, il y a le coco qui arrive, là, dans le coin de la rue. Bonjour, ça va? Oui, tout va bien. Et vous commencez à parler. Ah oui, oh, c'est intéressant, ça. Très intéressant, ce que vous me dites. Ah, il écoute. Et vous êtes étonné, vous dites, comment ça se fait? Il m'écoute, celui-là. À la maison, c'est un mur. Il ne veut pas m'écouter. Celui-là, il est gentil. Il m'écoute. Et c'est ainsi que, sans vous en rendre compte, le piège commence à s'ouvrir devant vous. Et des multitudes de femmes sont tombées, n'est-ce pas vrai? Et à qui la responsabilité, au mari? Elle veut parler, il n'est pas là, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Arrête, s'il te plaît. J'ai pas le temps maintenant. Le mari doit apprendre à dialoguer. Vous savez, dialoguer, écouter, c'est un art. C'est pas facile. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y en a très peu qui écoutent. Et voilà pourquoi, c'est un dialogue de sourds. On parle, mais on ne se comprend pas. As-tu vraiment une fois écouté ta femme quand elle veut te parler? Est-ce que tu écoutes vraiment? Est-ce que tu écoutes vraiment? Prête une oreille attentive, écoute, et tu verras que quelque chose peut changer. Elle se sentira aimée, honorée par ton écoute, et Dieu peut faire des miracles. Amen. Parle beaucoup moins, écoute davantage. Tu te fais des idées sur elle, tu te dis elle est comme ci, comme ça, mais est-ce que tu l'as écoutée? Et bien souvent après s'être écouté, on dit ah, c'est ça que tu pensais. Ah, mais moi j'avais compris exactement le contraire. Quand on n'écoute pas l'un l'autre, qu'est-ce qu'on pense? On pense exactement le contraire de ce que l'autre pense, n'est-ce pas vrai? Quand il n'y a pas de dialogue, le malin met la pagaille. Et on se fait tout un tas d'idées. Écoute. Quatrième qualité, le mari doit reconnaître l'importance des petites choses aux yeux de sa femme. Le mari est plutôt une personne... plus intellectuel, enfin plus logique, tandis que l'épouse est plutôt sentimentale. Je ne veux pas dire que son intellect ne fonctionne pas du tout, mais je parle de la nature qui est là en elle, c'est plutôt une personne sentimentale. Elle est plus attachée aux petites choses, tandis que le mari, lui, les petites choses, bon, c'est pas intéressant. Lui, il est toujours dans ses grandes visions, le mari. Il est là toujours, il plane un petit peu aussi, ouais. Il voit tellement grand qu'il ne sait plus où il en est. Si bien que lorsque sa femme lui dit, écoute chérie, tu vois ça là, ce petit... Quoi, ça... Oh, c'est rien du tout. Et le mari s'étonne de ce qu'il ne comprend pas sa femme. Ah ça, tu t'intéresses à ces petites choses là? Et il est étonné, il dit, mais comment ça se fait qu'elle s'attache à ces petites choses et lui, ça ne l'intéresse pas? Parce qu'il doit comprendre que sa femme l'épouse, une femme en général, s'attache davantage aux petites choses. Une petite parole d'affection, un petit geste d'affection, un petit bouquet de fleurs, un petit merci, un petit mot « s'il te plaît » peut faire des miracles dans un foyer. Amen. Un petit mot « pardon », ça fait des miracles. Et le mari ne le sort pas de sa bouche. Un petit mot « je t'aime », c'est pas grand-chose, mais ça peut faire des miracles. Mais le mari a de la peine à le sortir. Et il se dit « mais c'est rien du tout, ça c'est des petites choses, ça n'a pas de valeur !» Si les petites choses ont de la valeur aux yeux d'une épouse, et les maris doivent comprendre cela. Si tu veilles, si tu es fidèle dans les petites choses, tu verras que ta femme réalisera qu'elle est vraiment aimée. Car l'épouse se sent aimée quand le mari manifeste ses gestes d'affection et de tendresse dans les plus petites choses. Ça touche le cœur de l'épouse. Alors, je vous donne un petit secret, Marie, ce soir. Amen. Vous avez un petit secret, maintenant. Vous connaissez le cœur de votre femme et commencez à vous rattraper. Dites merci plus souvent. Dites-lui des paroles d'affection plus souvent. Et vous verrez Dieu faire des miracles. Amen. Dites-lui je t'aime aussi un peu plus souvent. Terminer encore, et puis après je vous dirai, je vais terminer par une petite histoire. Cinquièmement, le mari doit savoir approuver et encourager sa femme. Voilà un ministère extraordinaire que Dieu a donné au mari. Je le répète, ces pensées sont très importantes. Le mari doit savoir approuver et encourager sa femme. Les psychologues eux-mêmes le disent que les deux besoins fondamentaux d'une personne, c'est l'amour et l'approbation. Approuver quelqu'un. Et quand on aime quelqu'un, on aime avoir l'approbation de cette personne. Et combien de maris la font défaut? Il n'y a pas de parole d'approbation. Vous savez, l'épouse en a plus besoin que le mari. L'épouse est bien souvent à la maison. Elle est là dans son travail avec les enfants, les casseroles, enfin tout cela. Et elle n'a pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Et la seule personne qui peut l'encourager, l'approuver, c'est qui? C'est le mari, n'est-ce pas? Et si le mari ne l'encourage pas dans les petites choses qu'elle fait à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est voilà pourquoi beaucoup d'épouses quittent le foyer, vont travailler, vont faire beaucoup de choses. Elle se dit au moins, mon travail sera apprécié là-bas. Tandis que celui-là, il a tellement la tête dure, il est tellement aveugle, que tout, malgré tout ce que je fais, il n'y a aucun merci. Il n'y a aucune parole d'approbation, aucun encouragement, rien du tout. Au contraire, qu'est-ce que tu as encore fait ici? Toujours la même chose. Qu'est-ce que tu as changé là encore? Que des paroles de désapprobation. Mais il y a des maris qui sont spécialistes pour ça. Chaque parole qui sort, c'est une parole de désapprobation. Et voilà pourquoi l'épouse, découragée, quitte la maison ou cherche du travail, pour que là-bas au moins, on apprécie ce qu'elle fait. Le plus grand besoin de l'épouse, c'est d'être aimée, c'est d'avoir ces manifestations d'approbation. Si tu vois une qualité dans ton épouse, eh bien, reconnais-le, dis-le. Si tu vois qu'elle a des talents dans tel domaine, dis-le, approuve-le, reconnais-le. Elle a fait quelque chose de bien, elle éduque bien les enfants. Enfin, elle fait beaucoup de choses qui te touchent, dis-le. Ne sois pas muet, dis-le. Ta femme a besoin d'entendre cela. Pour elle, c'est important. Pour elle, c'est se sentir aimée. C'est cela, se sentir aimée. Et beaucoup de femmes sont là, privées de ces gestes d'affection. Et c'est pourquoi elles sont insatisfaites. Il y a tant de frustration. Mais le mari, en tant que chef, doit discerner les besoins de son épouse. Amen. L'épouse n'est pas seulement là pour satisfaire les besoins du mari, mais le mari est là pour satisfaire les besoins profonds de sa femme. Un mari, vous voulez dire, une fois par mois, par exemple, à peu près, une fois par mois, vous voulez dire, chérie, je t'aime. L'épouse peut dire à son mari, une fois par mois, je t'aime. Ça lui suffit.
Parce que, disons, lui, il a son travail, il a beaucoup d'autres choses, c'est pas tellement là son besoin essentiel. Mais à la femme, si vous lui dites une fois par mois « je t'aime », alors là, c'est la catastrophe. À l'épouse, il faut lui dire au moins une fois par jour « je t'aime ». Et jamais elle vous dira « écoute, tu m'en dis un peu trop maintenant ». Je n'ai pas encore rencontré une dame comme cela. S'il y en a ici, vous viendrez me voir après. Il faut que je vous prendrai en photo. Parce que c'est la première fois que je rencontre une dame comme ça. Mais au contraire, l'épouse dira, écoute chérie, tu sais, tu peux le dire une fois, mais 10 fois, tu sais, ça ne me dérange pas. Au contraire, elle a besoin d'entendre l'amour du mari. Elle a besoin de l'entendre. Combien de maris disent, oh oui, mais tu sais, je t'aime tellement que, je sais pas, j'ai de la... Oui, je t'aime beaucoup, mais ça sort pas, quoi. Et je termine par cette histoire que je dis souvent. C'est l'histoire d'un nommé Hans. Ça se passait, je crois, en Norvège, là-bas. C'était un paysan. Tous les matins, vous savez l'habitude qu'il avait, notre ami Hans. Il avait l'habitude de faire du footing. Et que lorsqu'il rentrait de son footing, sa petite femme préparait toujours un bon petit déjeuner copieux. Alors, il faisait son petit footing, Hans. Et il rentre, ah, tout est préparé, magnifiquement préparé, il se régale et tout, formidable. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les matins, fidèle, à son footing, et sa femme fidèle pour préparer le petit déjeuner. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans. Et après 16 ans et un jour, les choses ont changé. Un beau matin, il arrive à la maison après son footing. Il était en train de se régaler. Ah, maintenant, je vais encore me régaler avec un bon petit déjeuner. Il arrive, pas de déjeuner. Vous vous rendez compte, après 16 ans, ça fait un choc. Alors, il a dû penser, ça, c'est pas gentil, hein. Ça, c'est pas gentil de ta part, hein. Tu vois bien que je me suis fatigué, enfin. Il voulait dire ça à sa femme. Il cherche sa femme. Personne. Alors ? Il n'osait même pas dire chérie. Ça sortait pas. Hé ! Personne, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors il va dans une autre chambre. Hé ! Personne. Il va dans une autre chambre. Hé ! Personne. Enfin, il fait toutes les chambres de la maison, puis finalement, dans un petit coin d'une chambre, qu'est-ce qu'il voit ? Sa femme dans un coin en train de pleurer. Qu'est-ce que tu fais là ? Hé, mon petit déjeuner ! Descends tout de suite ! Bouge pas, en train de pleurer. Tu descends, s'il te plaît ! Et il a commencé à voir que c'était plus sérieux qu'il ne le pensait. Mais qu'est-ce que tu as ? Elle répond pas. Dis-moi ce que tu as ! S'il te plaît, parle ! Enfin, finalement, après plusieurs minutes, elle lui a dit, écoute Hans, ça fait 16 ans qu'on est mariés et tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Alors lui, il a fait, oh ! Ah, c'est ça ? Mais tu te rappelles pas ce que je t'ai dit le jour du mariage ? Je t'ai dit que je t'aimais. Et que si quelque chose venait à changer, ben je te dirais. Si je te dis plus rien, c'est qu'il n'y a rien à changer. Donc, il voulait dire par là, ben, sois satisfaite. Je t'aime toujours, mais je n'ai pas besoin de le dire. Et c'était là son problème. Et c'est là le problème de beaucoup de maris. Le mari ne ressent pas ce besoin qu'on lui dise constamment cela. Il a d'autres besoins, bien sûr, ça lui fait plaisir aussi, d'accord. Mais l'épouse a un besoin plus important dans ce domaine-là, et l'époux doit discerner cela, sinon il aura des ennuis. Et pour elle, elle a besoin d'entendre qu'elle est aimée. Est-ce que tu as dit aujourd'hui à ta femme que tu l'aimais ? Tu ne l'as pas fait ? C'est pas encore minuit. Tu peux te rattraper, c'est pas encore minuit. Commence à dire à ta femme que tu l'aimes. Elle a besoin de l'entendre. Si toi, tu ne le dis pas, un jour, elle risque de l'entendre de quelqu'un d'autre. Et ce sera la catastrophe. Les épouses, les époux doivent manifester de l'amour. Combien de fois, quand nous lisons les évangiles, Jésus nous dit qu'il nous aime, n'est-ce pas vrai? Avez-vous remarqué cela? Ça m'a frappé. À combien de reprises Jésus nous montre, nous dit qu'il nous aime, qu'il nous aime? Pourquoi? Parce qu'on en a besoin, n'est-ce pas? Une fois en passant, ça ne suffit pas. Et nous aussi, nous devons le dire à nos épouses. Plus que jamais, dis-le, dis-le, dis-le. Et tu verras une transformation dans la vie de ton épouse. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous allons maintenant nous courber quelques instants dans la prière. Et avant la prière pour les malades, je crois que je vais faire un appel pour les maris. Hier soir, nous avons prié pour les épouses et nous allons prier pour les maris ce soir. Mais s'il y a des maris qui sont là avec leurs épouses, nous pouvons prier pour les deux. Si, cher mari, vous êtes là avec votre épouse et que ce soir, vous avez entendu la parole de Dieu et que vous voulez réparer certaines choses, si vous voulez changer certaines choses, le moment est là pour vous de le faire. Et je crois que Dieu va prendre note de cette soirée, chers amis. Cette soirée est plus importante que vous le pensez. Votre décision peut changer votre vie et la vie de votre foyer. Mais le mari doit obéir le premier. Sois humble. Sois humble et sauve ton foyer. Fais ce que Dieu te demande. Ne te crispe pas, ne te révolte pas. Humilie-toi devant Dieu et même devant ta femme s'il le faut. Demande pardon si tu as mal agi, si tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Sache t'humilier et elle te respectera encore d'autant plus. Tu ne perdras pas ton autorité si tu t'humilies devant ta femme. Au contraire, tu la retrouveras et Dieu te bénira. Alléluia. Restons dans le recueillement quelques instants et nous allons prier maintenant avec les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour les couples qui désirent ce soir vraiment recommencer sur de nouvelles bases et aimer comme Dieu nous a aimés.